le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
Merci d'être à notre écoute et dans le cadre justement de ce congrès à Bordeaux, nous allons continuer à rencontrer des gens très intéressants qui ont des choses très intéressantes à nous raconter, comme aujourd'hui nos invités Catherine Ulsko, chef de mission partenariat innovation USH. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Et Agathe Breton, chargée de mission hébergement logement Fédération nationale solidarité femmes. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer peut-être par présenter déjà Agathe, si vous le voulez bien, la fédération et ses actions en quelques mots s'il vous plaît.
Alors la FNSF, c'est un regroupement d'associations, 73 en France, réparti à peu près sur tout le territoire national, avec vraiment une volonté d'avoir des actions en faveur des femmes, à la fois sur l'accompagnement, mais aussi sur le relogement. Et c'est aussi la FNSF qui a créé et gère la ligne d'écoute nationale pour les femmes victimes de violences, le 3919.
Alors Catherine, vous êtes donc chef de mission à partenariat et innovation à USH. Expliquez-nous un peu le sens de votre métier.
Alors je traite un certain nombre de sujets, de thématiques, dont la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui nous occupe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est avec vous aujourd'hui.
Tout à fait.
Donc dans la question du partenariat, il y a certes de nous mieux connaître nos partenaires, mieux s'organiser, etc. Mais il y a aussi le fait de développer des partenariats et de travailler avec la Fédération nationale Solidarité Femmes pour le compte des organismes HLM. Ça nous a semblé quelque chose de tout à fait indispensable, normal, impérieux, compte tenu de l'actualité, de la manière dont ce sujet faisait beaucoup de une de l'actualité. Ouais. Il y a eu le Grenelle de lutte contre les violences conjugales. Et nous, en tant que représentants des organismes HLM, on sait que on est des acteurs importants dans le parcours de ces femmes, Le toit, c'est quelque chose de stabilisant, d'énormément stabilisant, qui aide à se reconstruire, à restructurer. Mmh. On sait qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'initiatives déjà de la part des organismes antérieurement et de longue date sur ces questions-là. Et en termes de partenariat, il nous a semblé important de structurer pour encore encourager ce mouvement et les initiatives. Et la FNSF, à ce titre-là, est vraiment pour nous le partenaire, compte tenu de toutes ses attributions, de toutes ses compétences et de son positionnement sur tout le territoire.
En tout cas, c'est un partenariat incroyable et inédit, on peut le dire. Hein. Agathe, la problématique de la violence faite aux femmes est un sujet qui, hélas, s'impose de plus en plus dans notre actualité. Est-ce que la Covid a accentué ce type de problématique ou pas ?
La crise sanitaire, ça a été un vrai problème, puisque pendant toute la durée, par exemple, du premier confinement, tout s'est arrêté. En tout cas, toute l'activité logement s'est arrêtée. Donc nous, on s'est retrouvés avec énormément de femmes qui étaient hébergées dans les associations, qui n'avaient, par exemple, plus besoin d'être hébergées, mais qui ne pouvaient pas sortir, puisqu'il n'y avait pas d'entrée dans les logements. Donc des femmes qui aussi voulaient être hébergées et parfois mises en sécurité et qui ne pouvaient pas l'être, puisqu'il n'y avait plus de place. Et aussi beaucoup de femmes qui étaient justement, en transit ou en tout cas en cours de signature de bail ou qui attendaient un passage en commission. Mmh. Et tout ça s'est stoppé également pour toutes ces femmes. Donc c'est vrai que ça a reporté un certain nombre de démarches et il y a eu un gros mouvement. Et d'ailleurs, moi, je tiens vraiment à saluer et à remercier tous les organismes HLM avec qui on a une convention, puisque dès que le confinement s'est terminé et qu'on a pu reprendre nos activités, il y a eu vraiment un élan de solidarité et énormément de rapidité de la part des bailleurs pour rattraper en quelque sorte le temps perdu pour reloger les femmes.
Parce que c'est une réalité, ces femmes qui subissent ces violences, leur seule préoccupation, c'est de pouvoir partir pour se reloger rapidement. Mais en France, ça ne se passe pas réellement comme ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont décidé de partir, si elles ne savent pas où se faire héberger, c'est quoi leur solution finalement ? C'est d'être, de se dire, finalement, j'attends un peu, je reste chez moi malgré la violence que je subis. Comment est-ce qu'on agit dans ce genre de situation ? Comment on les accompagne en tout cas ?
On retrouve en effet vraiment des situations très différentes. Il y a des femmes qui vont le dire très clairement qu'elles vont rester au domicile conjugal avec l'auteur des violences tant qu'elles n'ont pas de solution derrière,
malgré tout,
quand il y a des enfants d'ailleurs.
Ouais.
Il y a des femmes qui vont pouvoir en effet être hébergées et du coup ça va être un hébergement temporaire pour pouvoir les reloger après. Et puis il y a des femmes qui sont prêtes au relogement, parce que être prête au relogement, c'est certes l'être administrativement parce qu'on a tous les documents qu'il faut, mais il y a aussi être prête au relogement psychologiquement, puisque c'est une sorte de reconstruction également pour ces femmes. Donc parfois elles trouvent aussi des relais dans des membres de la famille, chez des amis, parce que rester au domicile, ce n'est plus possible, quoi.
Évidemment. Alors Catherine, peu de gens le savent, mais une femme victime de violence a un accès prioritaire à un HLM. Ça, il y a très peu de gens qui le savent, même moi, qui suis quand même assez informée, je ne le savais pas. Ça, c'est depuis quand ? C'est depuis toujours ?
Alors en fait, la question, elle est un peu compliquée parce que vous avez des questions réglementaires, certes, et après, il y a des questions de pratique. Donc même avant qu'il y ait cette priorisation de manière plus structurée, en fait, il y a de longues dates. Les cas de violence conjugale sont des choses qui sont vues avec extrêmement de préoccupation de la part des commissions d'attribution. Vraiment, je ne le dis pas pour mettre en avant les organismes, etc. On voit bien, on a fait une étude il n'y a pas très longtemps, une enquête sur, les pratiques des organismes sur cette question du logement des femmes victimes de violences. En fait, les attributions en faveur des femmes victimes de violences, elles sont nombreuses. Nous, on les estime à peu près 10 000 par an. Et c'est pas forcément du tout un pointage administratif prioritaire. C'est vraiment des pratiques, par exemple, sur les documents réglementaires que les organismes seraient, entre guillemets, obligés d'avoir pour permettre le relogement, désolidariser les dettes ou des choses comme ça.
Oui. Il y a tout un processus.
Voilà, il y a tout un processus, mais ce que je veux expliquer, c'est qu'au-delà de la question réglementaire, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organismes, parce que c'est des gens de terrain, parce que à plein de moments de la vie de ces personnes et de la chaîne de travail des organismes HLM, ils se rendent bien compte, via le gardien qui remonte des informations, via la conseillère sociale qui a des confidences, via les demandes de logement qui arrivent depuis la chargée de clientèle, etc. Les organismes, ils vivent cette question-là de manière presque intime dans leur les représentants des organismes sur le terrain, ils le vivent de manière intime. Donc si vous voulez, à partir de là, je pense que ça fait longtemps que les organismes ne sont pas restés bras ballants en disant il me faut un bout de réglementation qui me permet d'eux, et ils ont été très actifs avec vraiment une conviction sur le fait qu'ils ont un rôle à jouer sur ce thème. Et ça fait partie de leur mission d'intérêt général, de service public, d'acteur local. Donc ils vont bien au-delà de ce que simplement prévoit la loi sur ces thématiques, comme sur d'autres. Mais ce que je veux dire, on voit bien, nous qui avons creusé cette thématique-là, on voit bien que c'est une thématique où ils sont ultra investis. Et le fait de... J'insiste un peu là-dessus aussi, Agathe pourra le redire, le fait d'être investi et convaincu, ça fait qu'aujourd'hui où les choses sont plus structurées, notamment grâce à nos partenariats, même s'il n'y a pas que nous naturellement, en plus on ajoute une dose de professionnalisme et de connaissances très précises de ce qu'il faut faire, pas faire, etc. parce qu'on a tendance à y aller au cœur, alors qu'il y a aussi des choses qui sont techniques et qu'il faut travailler, ça je pense qu'Agathe pourra le redire, mais le préciser, et donc on arrive à un niveau d'intervention qui est, me semble-t-il, très intéressant, tant quantitativement que qualitativement, parce qu'on a ce partenariat et cette manière de travailler ensemble avec chacun sa part à remplir.
Agathe, il y a quand même quelque chose. Vous voulez réagir d'abord, parce que j'avais une question aussi après.
Dites-moi. Je voulais juste dire que d'ailleurs, heureusement en fait que les organismes HLM sont investis à ce point-là, puisque dans la réglementation aujourd'hui, pour qu'une femme victime de violence elle soit réellement prioritaire, il faut qu'elle puisse bénéficier d'une ordonnance de protection. Sauf que la réalité, c'est que des ordonnances de protection, il n'y en a pas tant que ça.
Enfin, en tout cas,
les juges aux affaires familiales n'en délivrent pas tant que ça. Et donc nous, c'est une vraie chance en fait que les bailleurs soient sensibilisés et formés à la question des violences, parce que du coup, ils comprennent les mécanismes et les enjeux de ces victimes. Et par exemple, un grand nombre de bailleurs vont plutôt se baser sur un récépissé de dépôt de plainte. Et même si elle est ancienne, que la travailleuse sociale, par exemple, puisse aussi expliquer pourquoi cette plainte, elle est ancienne, qu'est-ce qui s'est passé depuis. Et ça, c'est essentiel pour nous, parce que si on se cantonnait vraiment à l'ordonnance de protection, on ne relogerait pas autant de femmes que ce qu'on fait aujourd'hui.
Parce que c'est vrai que ce qui est compliqué à comprendre, Agathe, dans cette problématique quand même qui est nationale, c'est qu'à chaque fois qu'on assiste à un féminicide, on se dit, mais cette femme avait certes pourtant des solutions pour qu'elle puisse partir, se faire héberger. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à des extrêmes comme cela, alors que ça commence déjà dès le moment où la femme, elle va déjà porter plainte au commissariat? Est-ce que le commissariat aussi n'est pas assez bien formé, ou les commissariats ne sont pas assez bien formés pour pouvoir justement accompagner ces femmes, pour les diriger vers vous?
Alors il y a plein de choses. Il y a en effet d'abord ces femmes qui vont alerter, qui vont parfois malheureusement pas être entendues ou
mais
pas
ça
être,
suffit pas,
bien sûr, qui ne sont pas crues aussi et qui de fait ne sont pas orientées, puisque c'est vrai aussi que les associations spécialisées sont très mal connues par un tas de professionnels, donc l'orientation elle est difficile, et c'est là aussi toutes les conventions qu'on a justement avec l'USH nous permettent vraiment de favoriser la connaissance aussi des territoires et de nos actions respectives. Et puis parfois il y a des femmes qui sont hors radar parce qu'elles sont tellement isolées à cause des violences conjugales qu'elles ne rencontrent pas ni de personnes, de professionnels dans la sphère privée, la sphère professionnelle, peu importe, qui
même
vont
avec des
justement...
outils internet, même avec tout ça, on n'y arrive pas, elles sont trop parfois concentrées sur leur problématique.
Il y a énormément de femmes qui sont séquestrées, qui ont du coup accès à personne, à rien à l'extérieur, et qui de fait sont vraiment complètement inconnues et passent malheureusement à la trappe. Et du coup, c'est important que ces partenariats puissent vivre, mais aussi être valorisés pour qu'on puisse montrer à ces femmes qu'il y a des solutions qui sont possibles. Parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui n'osent pas partir ou engager des démarches parce qu'elles n'ont pas conscience en fait qu'il y a vraiment des possibilités. Et c'est là aussi où la FNSF et justement les organismes HLM, on a pour mission aussi de créer vachement d'outils pour permettre à ces femmes aussi d'accéder à un certain nombre d'informations, puisque passer la porte d'une association, c'est jamais simple. Passer la porte d'un bailleur, on n'y pense pas toujours d'ailleurs, même quand on est locataire. Donc c'est important, et c'est pour ça qu'on travaille aussi notamment avec Catherine sur des outils, alors à la fois du côté des bailleurs, du côté des femmes, pour justement aider un maximum de victimes d'aller chercher ces mains tendues en fait.
Cette convention, oui Catherine.
Peut-être, moi ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que tout le travail, enfin toute la connaissance qu'apportent les médias, toute la lumière qui est faite sur les situations, c'est quelque chose aussi qui aide énormément nos dispositifs, parce que par exemple vous voyez la question des commissariats, globalement vous faites la différence, enfin pareil Agathe pourrait en parler aussi bien que moi, mais vous faites très bien la différence entre les commissariats où les agents ont été formés, ceux où ils ne l'ont pas été. Et vous avez des outils qui sont ultra bien faits de dépôt de plainte spécialisé, où le dépôt de plainte, il est très très bien fait sur la violence conjugale, où toutes les questions que on sait qu'il faut qu'on ait les réponses pour que les personnes puissent entamer leur parcours, toutes ces questions, elles sont posées par les policiers. Donc si vous voulez, il y a des outils, il y a des gens d'hyper bonne volonté. Après, sans doute, ce qui a manqué, c'était le sens de votre question initialement.
De ne pas en arriver au féminicide.
Voilà, évidemment. C'est aussi que y avait besoin, et pour moi, il s'est vraiment passé quelque chose, il y avait besoin aussi d'une sorte de résonance médiatique importante pour qu'il y ait une sorte de prise
comme
de
ça,
conscience.
Finalement. Il faut attendre qu'il y ait des morts pour que les gens ouvrent les yeux.
Parce qu'il y a
fou,
plein de professionnels qui auraient dû intervenir sur certains cas qui ne l'ont pas forcément fait, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience sociétale qui est en cours, qui n'est pas abouti, mais on voit bien que... Bah après, peut-être
on en parle plus, ça c'est sûr.
Voilà, l'exemple, il est peut-être un petit peu banal, mais moi, personnellement, j'ai l'impression d'entendre beaucoup moins de blagues un petit peu salaces, un peu déplacées qu'il y a encore quelques années, parce qu'il y a des sortes d'interdits, de tabous qui se sont posés au fur et à mesure.
Et des limites maintenant, surtout.
Voilà, et ça, c'est bien sûr, nous, en tant que professionnels, que techniciens, techniciennes, on met des choses en place, mais... ce qui nous aide énormément aussi, c'est à quel point la question a changé pour monsieur, madame, tout le
Bien
monde.
Sûr.
Voilà, et effectivement, les limites se sont déplacées et sont. Voilà.
Dernière question, est-ce que vous avez la sensation que l'État en fait assez sur ce type de questions? Non, mais soyez franche,
après, c'est
Agathe,
la question qui.
Non, mais parce que vraiment, vous savez ce qu'il faut faire. Finalement, vous avez connaissance des outils indispensables pour éviter ce genre de problématiques et pour aider ces femmes et les accompagner. Avec toutes ces annonces qu'on a entendues de la part de Marie, de Chiappa, de plein de gens, est-ce que vous trouvez qu'ils ont eu de bonnes réflexions, de bonnes attitudes, de bonnes propositions?
Alors, on avance.
Et je vous demande vraiment d'être franche vis-à-vis de cette question, s'il vous plaît.
On avance, c'est sûr. On a quand même en France la chance d'avoir un certain nombre de lois en faveur quand même de l'égalité et aussi pour défendre les victimes de violences. On a quand même un certain nombre d'outils aussi. Après, le problème qui se pose, c'est plutôt l'application. Donc, du coup, c'est parfois difficile, puisque pour donner l'exemple de l'ordonnance de protection, mais aussi des téléphones grave danger, qui sont des outils vraiment nécessaires, mais dans les réalités qui ne sont pas toujours appliquées à chaque situation de violence conjugale. Parfois, il faut vraiment justifier les violences avec une tonne de démarches qui ne sont pas simples non plus pour les femmes à engager, surtout quand elles sont encore au domicile conjugal. Donc parfois, c'est le pas de côté, il est un peu là, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui existent et qui sont très bien et qui défendent très bien les femmes, mais qui ne sont pas toujours déployés.
Adapté, déployé
à l'échelle quand on voit qu'en effet tous les deux jours il y a quand même une femme qui meurt sous les coups de son
conjoint. Mais pourquoi on vous consulte pas? Enfin, vous, évidemment, quand je parle de vous, votre association, qui vous avez quand même une expérience sur le terrain et vous accompagnez de nombreuses femmes sur ce type de problématique, pourquoi est-ce qu'on vous consulte pas?
Alors on nous consulte, hein. La FNSF est vraiment dans un très grand nombre à la fois de réseaux, de groupes de travail sur toutes les questions juridiques.
Très bien.
Moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est que c'est un petit peu le sens de ce que j'ai dit juste avant. Les outils réglementaires, par exemple, ils sont très bons. L'ordonnance de protection, c'est un super texte. C'est la manière de... Mais le problème, c'est est-ce qu'il est déclenché autant de fois qu'il le devrait? Non. Et là, on voit bien qu'on est sur des questions de mentalité. J'en veux pas aux juges, ils font tout ce qu'ils peuvent, etc. Mais c'est pour ça que je pense que le mouvement, c'est un mouvement de nous tous, citoyens et professionnels, de prise de conscience. Et parce que on peut, par exemple, le 3919 est devenu, maintenant, il fonctionne 24 heures sur 24.
3919, c'est quoi?
C'est la ligne d'écoute nationale pour les victimes de violence.
Il faut quand même le répéter.
Il y a quand même beaucoup de choses qui sont issues du Grenelle qui ont été mises en place. Alors, je sais que les associations considèrent, et sûrement à juste titre, moi, j'ai pas d'opinion là-dessus, j'ai pas d'éléments pour me positionner, qu'il n'y a pas forcément toujours assez de moyens. Mais globalement, les textes, en revanche, ils sont là, ils sont bien. Pour le logement, ils sont intéressants. Les textes, pour ce que je connais le mieux, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Après, c'est le pas de plus dans les mentalités des citoyens, des citoyennes et des professionnels pour aller jusqu'au bout de leur application et de leur pleine implication.
Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des efforts pour envoyer des gens, des professionnels comme vous, pour aller former, par exemple, les policiers, les forces de l'ordre, pour leur expliquer que quand on reçoit une plainte d'une femme, il faut peut-être se comporter d'une telle façon, être à l'écoute d'une telle façon. Est-ce que ça va être fait?
Oui, en fait, c'est là où je voulais en venir, justement, c'est que la formation, elle est vraiment essentielle et à tous les niveaux, parce qu'on est tous concernés par les violences conjugales.
Bien sûr, ça peut arriver
à
tout
le monde. On connaît malheureusement tous et toutes quelqu'un qui est victime ou qui a été victime de violences conjugales. Et la question de la formation, elle est importante aussi au niveau de la justice, parce que de fait, c'est en effet n'importe quel juge, enfin en tout cas des juges qui vont pouvoir appliquer à la fois nos lois et faire bénéficier à des femmes de ces outils. Mais ne serait-ce que la formation de c'est quoi la violence conjugale, parce qu'en fait c'est surtout ça là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne savent pas ce que c'est et qui ne le différencient pas du tout d'un conflit de couple. Et donc il y a beaucoup aussi de situations qui sont déjà repérées et pour lesquelles un certain nombre de professionnels sont autour de la table pour ces femmes, mais qui ne regardent pas avec les bonnes lunettes et qui en fait regardent avec les lunettes de conflit de couple, alors qu'on n'est pas du tout sur des mécanismes qui sont similaires. Quoi.
C'est pas un conflit de couple, parce qu'ils sont pas à égalité.
Et pour, je pense que ce qui nous anime toutes les deux personnellement, mais aussi nous en termes de conviction, pourquoi on fait tout ça, je veux pas du tout parler à votre place Agathe, c'est que nous on sait aussi, parce que c'est des questions qu'on a réfléchies, etc., que oui, ces violences, c'est aussi notre société de demain. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la violence conjugale, c'est des enfants exposés à la violence, dont des enfants co-victimes, donc demain une société plus violente. Donc je pense que vraiment c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur la question de comment on regarde tout ça, et plus que de la question des moyens et des lois, et bien sûr que c'est important, mais je crois que le vrai problème il est ailleurs. Par rapport à la question de la formation de la police, on va dire de manière générale, des commissariats, me semble-t-il, il y a plusieurs années qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place, pas forcément de manière systématique. Ça a fait partie des choses sur lesquelles tous les partenaires ont beaucoup insisté.
Quand on est victime de violence, c'est la première, en tout cas, c'est le premier pas. On se dit, on va aller se faire protéger par la police. Donc,
Et il y a eu ça a fait partie des choses qui ont été mises en avant. Donc, quand tous les partenaires de cette thématique ont été associés lors du Grenelle, et ça faisait partie du plan d'action d'effectivement former davantage la police.
C'est une réalité d'ailleurs. Enfin, tout professionnel, toute personne formée évolue forcément du coup dans sa réflexion et dans sa pratique. Et là, du coup, pour revenir au logement social, nous, pour toutes les formations qu'on a menées auprès des organismes, on l'a vu et on la voit encore, la différence. Il y a vraiment un changement.
Tant mieux, c'est une bonne nouvelle.
Dans l'accueil et dans le regard porté sur les dossiers qu'on va pouvoir présenter. Et c'est ça qui fait la preuve également que c'est vraiment essentiel. Et je rejoins aussi Catherine sur ne serait-ce que la prévention, parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est nos victimes et nos auteurs de violences de demain.
Oui. Et puis je voulais aussi rappeler un chiffre qui était important tout à l'heure que j'ai noté. Il y a 10 000 logements attribués chaque année pour motif de violence conjugale.
Et c'est vraiment une estimation au bas mot, parce que c'est des statistiques qu'on est en train d'essayer de travailler avec les représentants du ministère pour mieux suivre ces chiffres-là. C'est vraiment une estimation basse. Moi, je ne voulais pas forcer le trait, entre guillemets, rester... mais je pense que c'est une estimation vraiment basse.
Très bien. Bon, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ne parle plus du tout de ce type de sujet et que les choses roulent. Mais malheureusement, la violence fait aussi partie de notre société. Il faut aussi la gérer. Merci en tout cas à vous deux pour le travail effectué sur le terrain et surtout pour ce beau partenariat qu'il faut quand même saluer. Et j'espère quand même qu'on attribuera de plus en plus de logements justement à ces femmes victimes de violences conjugales. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Catherine Lusco, chef de mission partenariat et innovation USH, et Agathe Breton, chargée de mission hébergement logement Fédération nationale solidarité femmes. On va peut-être redonner le site internet, parce que peut-être des femmes qui ont besoin d'aller voir aussi ce qui s'y passe.
Solidaritéfemmes.org et puis surtout le 3919 qui est un numéro d'écoute et d'orientation sur les structures spécialisées au niveau local.
Et on finira sur ça. Merci beaucoup à vous.
Merci. Merci, au revoir.
Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.